Viene el centro, clave, gol.
Bonjour à tous et bienvenue, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 81 Quinkies, c'est-à-dire le cinquième des 81. Le titre est le suivant, deux points ouvrez les guillemets, Money Time. Et oui, nous sommes dans le Money Time, c'est-à-dire que c'est là où la saison va se jouer pour les clubs en Coupe d'Europe, les championnats nationaux, c'est déjà fait un peu... Dans certains pays, c'est vrai, mais en France, bon, champion, d'accord. Mais après, qui va en Europe, qui descend peu cher, etc. La finale de la Coupe de France, voilà. Pour les sélections nationales, on a le temps d'en parler avec l'Euro, qui n'est pas tout près quand même. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. La semaine dernière, enfin non, pas la semaine dernière, lors du dernier podcast, je n'avais pas eu le temps de revenir un peu sur la saison 80-81, c'est la tradition. On avait fait le championnat dans un des podcasts 81. Là, on va attaquer la Coupe de France, et pendant quelques minutes, parce que c'est pas rien, cette finale de Coupe de France 1981, 64e édition, elle oppose Bastia à Saint-Étienne. Alors Bastia, je vous rappelle, finaliste de la Coupe de l'UEFA en 78, c'est il y a trois saisons, c'est pas si loin. Mais enfin, bon, tu as plus Johnny Rep et Jean-François Larios qui sont partis ou repartis à Saint-Étienne pour Larios. Mery Crimeau n'est plus là non plus. Et le plus grand joueur de l'histoire du football corse, qui va prendre d'ailleurs sa retraite à la fin de cette saison 80-81, je parle bien sûr de Claude Papy. Claude Pap, si je prends un petit peu le ton corse. Claude Pap. Et il a 32 ans. Alors 32 ans, aujourd'hui, c'est jeune, quoi. Tu vois, tu as encore des cracks à 36-37 ans qui te font des choses incroyables. Mais à l'époque, c'est la fin. Et c'est terrible parce que Papy, pour cette finale historique de Coupe de France, est blessé. Donc, il n'est pas sur la pelouse. Il y a déjà ceux qui sont partis, et il n'y a pas Claude Pape. Donc, c'est mal barré pour Bastia, surtout, bon, c'est une saison moyenne, il termine 12e, je vous donne un peu, je contextualise un petit peu. Hein. 12e, oui, mais avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable, le 18e. Donc, saison difficile. À 4 points, donc, seulement de la relégation, tu vois. Alors que Saint-Étienne, dans le même temps, saison 80-81, donc, 80-81, ils sont, je vous le rappelle, champions de France avec les Michel Platini, les Johnny Rep et compagnie, notamment des internationaux en puissance, tu vois, comme Batiston, Janvion, Lopez, Zimaco. Bon, bah, c'est le pot de fer contre le pot de terre, quoi. Sur le papier, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Rien que le goal average, tu vois, du championnat vous situe un peu l'écart. Saint-Étienne, c'est plus 42 et Bastia, c'est moins 5. On va voir quand même, il reste quelques grognards à Bastia de l'épopée de 78, le gardien Iard, Pierrick Iard, et puis les défenseurs, Caz, le capitaine Orlanducci donc, le jeune La Cuesta, il n'est pas reparti à Saint-Etienne, il est resté en Corse. À la base, c'est un milieu de terrain très, très talentueux, mais ces derniers temps, il joue libéraux, d'ailleurs dans cette finale, il sera libéraux, mais 4, c'est pas lingre, hein, comme on dit dans le midi. Alors il y a des joueurs de devoir, c'est vrai, que l'on découvre plus ou moins, notamment en défense, Paul Marchion, et puis au milieu de terrain, des hommes aux trois poumons, Alain Fiard, Jean-Louis Devigne, mais une attaque de feu quand même, une attaque de feu parce qu'il y a deux jeunes de très grand talent, Joël Henry le gaucher et Louis Martialis le droitier, et avant-centre, attention. Il y a le phénomène, le lion indomptable, Roger Mia. Alors, à l'époque, il a 29 ans. Tout le monde s'accordera à dire qu'il a 2, 3, 4 ans de plus. Mais enfin bon, c'est Roger. Il est arrivé en France peu de temps avant, hein, en 78, à Valenciennes, peu cher, dans des petites conditions, tu vois, alors que c'est un super joueur. Bon, il fait une saison à Valenciennes, une saison à Monaco. Et là, cette troisième saison... Il porte les couleurs de Bastia, il y restera 4 années, beaucoup de succès. Et puis bon, Roger Mia, vous connaissez les histoires, notamment en Coupe du Monde, avec le Cameroun. Bon, alors, on est un peu surpris parce que dans la première mi-temps, Bastia fait jeu égal, quoi. Tu vois, il y a une bonne organisation, il y a la fougue, voilà, c'est particulier, Bastia. Et puis l'entraîneur, Antoine Rodin, dit Tatane, c'est celui qui a fait un peu Nancy, tu vois, avec les Michel Platini, Paco Rubio, Olivier Rouvier. C'est un mélange de Rouillé et Ravier le Lyonnais. Non, Olivier Rouillé. Allez, la rouille, ça va être plus simple. Il y restait 10 ans, quoi, avec le formidable président Claude Cuny. Côté entraîneur stéphanois, c'est toujours le sphinx Robert Herbin. Bon, Bastia est présent, Saint-Étienne, peut-être un peu trop sûr de lui. 0-0 à la pause. Et, 50e minute, un but magnifique de Martialis. 1-0 pour Bastia. 8 minutes plus tard, Roger Mia, avec un calme, un sang-froid, il élimine Castaneda, tout ça et tout, ça fait 2-0. Il y aura un pénalty pour Saint-Étienne marqué par Jacques Santini à la 72e minute, mais on sait déjà que ça ne changera pas grand-chose. Et pourtant, il reste une vingtaine de minutes, tu vois, avec les arrêts de jeu qui étaient moins conséquents à l'époque. Hein, tu n'avais pas droit à 5 changements, tout le tralala. Mais 20 minutes, c'est le football de cette époque où on comprend vite la situation. Il n'y a qu'un but d'avance. Mais aujourd'hui, un but d'avance à 20 minutes de la fin, comme il y a 25 tirs d'un côté, 20 de l'autre, 40 actions d'un côté, 35 de l'autre, je veux dire, tout est possible. En ces temps-là, non. Tout n'est pas possible. Et pour marquer un but, c'est la croix et la bannière. Et finalement, Bastia, super performance, c'est historique. Bastia gagne cette Coupe de France 81. Voilà, finito la page dans le rétro. Et on attaque donc avec le Money Time pour la partie archive, les Coupes d'Europe, saison 80-81, le Ballon d'Or, peut-être un peu de Boca et Flamengo, hein, qui ont 80, ils ont flambé, et puis l'équipe de France, notamment un certain match en novembre 81 contre les Pays-Bas, tu vois, qualificatif pour la phase finale Coupe du Monde 82. Oui, Michel, etc. Ben, ça sera pour plus tard. Et on arrive au cœur de ce podcast. Alors, je vous ai dit au début que ça s'appelle Money Time, parce que c'est le problème avec le podcast. Ça se passe comment? Je vous l'ai déjà expliqué. Dans les jours qui précèdent, j'y pense. Tu vois, je suis dans la voiture, je me promène, je fais le truc. À certains moments, ça vient. Je trouve l'angle. Et je bosse dur sur l'angle. Parce que, et évidemment, je parle comme ça, tranquillou, mais c'est un petit peu pensé, quoi. Ça, et puis après, j'improvise, parce qu'une idée amène une autre idée, et puis amène une autre idée, et je suis, oui, comme le chat sur un fil, tu vois, en équilibre, et si je retombe, je fais en sorte que ça soit sur mes petits coussinets. C'est un miracle permanent, le podcast. Mais il y a un drame dans tout ça. C'est que je me creuse les méninges, je me tue, je me truc à réfléchir par rapport au thème choisi, et patatras, la veille, des fois c'est l'avant-veille, heureusement, des fois c'est 2-3 jours avant quand même, là c'est la veille, je change du tout au tout. Et le titre, en fait, n'est pas le Money Time. Le titre et le thème a changé, et du coup, le titre est Nouvelle Star. Parce qu'une idée m'a fait penser à une autre, en étant toujours dans le Money Time. Et après, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose de bien plus intéressant. Et oui, ça m'a fait penser à ça. Et donc, le Money Time n'a plus de raison d'être. Et le thème, c'est Nouvelle Star, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est pénible, hein, c'est pénible, parce que tu jettes à l'eau tout un travail, mais tu repars sur un autre, bon, voilà, c'est comme ça. Alors, Nouvelle Star, j'ai pas inventé le titre, hein, je crois que c'était une émission qui passait quelque part, je vous avoue que ces émissions-là, je sais pas, un télécrochet ou un truc comme ça, fallait chercher les nouvelles stars, les stars à venir de la chanson, ou quelque chose dans le genre, je sais même plus sur quelle chaîne ça passait, qui a gagné, si ça existe encore ou pas, mais ça me dit quelque chose, je me trompe, ça a peut-être jamais existé, c'est peut-être un autre titre. Mais Nouvelle Star, non, ça me dit un truc. Voilà, alors pourquoi Money Time ? Après on reviendra sur... Je vais quand même vous donner quelques biscuits de mon travail sur Money Time. Notamment, ça concerne le travail de Luis Enrique, la demi-finale arrive. Alors, attention, on est le samedi 27 avril. Donc que les choses soient claires, comme... Ça passera, ça sera mis en ligne sans doute le 27 très tard ou le 28. Il est possible que vous l'entendiez, ce podcast, X jours après, et que vous connaissez peut-être déjà le résultat du match aller de Dortmund et de OM Atalanta. Et peut-être même, je vais pas faire entre les deux tours puisqu'il n'y a qu'une semaine d'écart, donc peut-être même le retour. Donc sachez que j'en sais rien. On croise les doigts, on met des cierges, on fait des prières, la bonne mère et tout le tralala pour que ça se passe bien pour nos deux représentants. Mais donc je vais pas vous parler maintenant de Luis Enrique, de Pierre Sage, de plein de choses auxquelles j'avais pensé et puis Dortmund, Atalanta. Je voulais revenir aussi sur l'arbitrage parce que là. C'est vrai que c'est un gros souci. Alors, ils ont leur part de responsabilité, notamment dans ce règlement que je trouve complètement stupide. On l'a évoqué il n'y a pas longtemps dans l'équipe du soir, mais on l'avait déjà dit. Ça veut dire que vous savez que les arbitres sont notés. Et plus on les appelle à la VAR pour leur dire « va regarder, il y a peut-être but, il y a peut-être faute, il y a peut-être pas, il y a peut-être rouge, etc. » Plus ça compte, et en leur défaveur, dans la note. C'est idiot. Donc leur intérêt, c'est qu'ils ne soient pas appelés. Et du coup, il y en a qui sont un peu cul et chemise, et pour ne pas handicaper l'arbitre de centre, et ben, ils vont l'appeler le moins possible, là où pourtant, ils devraient l'appeler. Derrière ça, il y a des lobbies très étranges, avec des arbitres qui sont avantagés, donc d'autres qui ont plus ou moins aucune chance, etc. Et les enjeux... Ben, les enjeux sont énormes parce que c'est leur vie. Quand l'arbitrage n'était pas professionnel, bon, tu es rétrogradé en deuxième division, bon, c'est pas la fin du monde, tu essaieras de remonter. Mais là, la moyenne d'un arbitre, c'est 120 000 euros par mois. Et je ne vous dis pas les arbitres internationaux et tout le tralala. Bon, bref. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas intérêt à faire trop de prêts par rapport à tout cet argent. Parce que si tu es rétrogradé... on va en être loin, même si ça restera très raisonnable pour le français moyen. Mais tout ça, ça n'arrange pas. Mais derrière, et ça, je voulais en parler, on ira à Nouvelle Star un petit peu plus loin, il y a quelque chose, je suis désolé, qui est totalement injouable pour eux. Déjà, il y a les enjeux. Les enjeux, ils sont tels... que les présidents de club, les entraîneurs, les joueurs à un degré moindre, mais eux, c'est plus pervers, tu vois, parce qu'ils sont toujours à essayer de gratter, à faire du cinéma, à essayer d'influencer et tout. Donc, pour un arbitre, c'est déjà, tu vois, nerveusement terrible. Tu vois, ça va à une vitesse, il y a une fraction de seconde, une intervention, un truc, là, si tu te plantes. Parce que, en plus, avec la VAR, on est encore moins indulgent. Avant, on disait, bon, il n'a pas vu, il était fatigué, tout le monde le voit, soi-disant, tu vois, tout le monde le voit. J'aimerais bien que les gens, quand il y a une action, on leur dit, dis-nous tout de suite. Mais si tu te trompes, on te coupe un doigt. Tu vas voir si tout le monde le voit. Tu vois, c'est... Après, ah oui, avec tous les ralentis, tous les trucs, et puis une fois que... Non, tranquillement, dans son canapé, c'est pas pareil. Donc, Les enjeux, ils sont. Tu fais une Ligue des Champions, c'est 35-40 millions d'euros assurés, quoi. Tu vois, tu descends, c'est pas la fin du club, mais autrefois, tu descendais en deuxième division, très souvent, tu remontais parce que tu avais pas mal d'avance quand même au niveau des structures, des clubs, des joueurs, pardon, tu les perdais pas tous, etc. Aujourd'hui, tu as des clubs qui descendent et même qui comptaient, si tu veux, dans le paysage. Regarde Nancy. Nancy, ils sont nationales, tu vois. Et d'autres qui sont descendus et ça fait une plombe, qui sont en division inférieure, ils s'en sortent plus, etc., etc. Donc avec les enjeux, avec cette réduction de l'élite, 18 clubs en Ligue 1, là j'ai calculé à 4 journées de la fin, alors là pour le coup on est dans le money time, hein. 4 journées, là tout va se jouer hormis le titre de champion qui paraît acquis, je le redis, tu as 15 des 18 équipes qui sont concernées, soit par des places européennes, soit mathématiquement et pas trop larguées, soit par la descente. 15 sur 18, il n'y en a que 3 qui sont peinards. Tu vois, qui sont entre deux eaux, quoi. Tu sais c'est trop loin l'Europe, c'est trop loin la descente. C'est Strasbourg, c'est Montpellier, et c'est un troisième que j'ai oublié. Mais peu importe. Ça veut dire que tous les matchs, quoi. Je veux dire, c'est une pétaudière, quoi. Et puis, c'est chaque fois eux qui paient la note, quoi, qui sont au centre des débats. Et ça, c'est assez insupportable. Et là, j'en reviens aux joueurs et quand même aux entraîneurs, quelque part, qui conditionnent un peu les joueurs et qui, auprès de la presse, vont se plaindre. Oui, mais l'arbitre, oui, mais cela. Vous savez, je ne parle jamais des arbitres, mais aujourd'hui, je vais en parler. Et j'ai un exemple frappant pour ça. Et je vais l'évoquer un petit peu. Après, on viendra à la nouvelle star. Pourquoi ? Parce que c'est l'exemple typique, ça tombe sur tel joueur et sur telle équipe, mais dites-vous bien que ça pourrait être un autre joueur et pas de bol pour lui, quoi, et une autre équipe. Je pense que c'est très frappant parce que ça a beaucoup fait parler et c'est assez récent, on a énormément parlé dans les médias. Et là, vous allez voir, l'arbitre en prend plein la gueule, lui est pénalisé, il est au centre donc des débats, et le joueur, il passe entre les mailles du filet. Roule ma poule. Et ça, ça symbolise, si vous voulez, ce problème insoluble de l'arbitrage. C'est que si on pense, et on le laisse penser en agissant de la sorte, que l'arbitrage est le seul problème, pour tout ce qui concerne les décisions, justement, d'arbitre, alors on n'avancera jamais. Et moi, ce qui m'intéresse, et les podcasts, c'est un peu dans ce but, c'est de vous parlez de choses que vous n'entendez pas à la radio, à la télé, ou que vous lisez rarement, et des choses qui pourraient faire avancer le schmilblick. Vous voyez ? Est-ce que le schmilblick, à quoi vous pensez ? À la même chose que toi ? Oui, bon, voilà. Pour les anciens, Guilux, etc. Bref. Alors, je veux parler de la rencontre Lyon-Brest. On va faire une parenthèse sur la rencontre Lyon-Brest. Brest joue bien. Je ne sais pas si vous avez vu le match. Voilà, avec un incroyable Doumbia, Lopez, sur certaines frappes, est obligé de sortir le grand jeu. Il semble supérieur à Lyon, mais le problème, c'est qu'à la mi-temps, Lyon mène 1-0. Bon, c'est le football, vous me direz. Mais il y a plus grave. À la 16e minute, donc on est quand même en début de match, quoi, tu vois, à la 16e minute. Il y a une tête de Mounier qui est juste à l'entrée de la surface de réparation. Ça veut dire qu'il est assez loin des buts. Okay, il est à l'entrée de la surface de réparation, il fait une tête sur le côté, en se courbant un peu, mi-plongeante, et O'Brien, qui est à 1 mètre de lui, donc le stopper de Lyon, voilà, ça ricoche sur sa main. Et la main, c'est vrai, elle est légèrement décollée. C'est pas un angle droit, quoi, si tu veux. Mais elle est à 30 cm de ses hanches, enfin 30, ou 20 cm ou truc. Alors après, comme il y a l'impact, un petit impact avec le ballon, la main, c'est comme si tu as une petite décharge électrique, elle est encore plus décollée, si tu veux. Mais au départ, elle est un peu décollée. Et moi, j'en peux plus de ce football d'aujourd'hui où tu dois défendre avec les mains derrière le dos, avec le truc. Et O'Brien, en plus, il est un peu sur le côté, puisque c'est à la suite d'un centre, je crois qu'il vient de la gauche, etc. et tout. Simplement, il y a quelque chose de fondamental là-dedans, c'est que alors, le ballon va vers le but. Il serait allé vers le but s'il n'y avait pas eu la main au passage. Bon, le jeu continue, le jeu se poursuit. Et la VAR n'accorde pas pénalty. C'est vrai que dans certaines circonstances, et je trouve ça particulièrement con d'ailleurs, pas toujours, mais dans certaines, enfin, dans plus de circonstances que d'autres, on accorde pénalty. Dans certaines autres circonstances, pas vraiment. Et là, je trouve que c'est assez juste. Et vous savez pourquoi ? Parce que la tête n'est pas appuyée, elle va au centre des buts. Entre O'Brien et Lopez, il n'y a pas un joueur. Donc un joueur, tu vois, si ça va vite, il est susceptible de marquer contre son camp ou quoi que ce soit. Là. Enfin, c'est assez net pour Lopez. Et de vous à moi, s'il n'y a pas main, ma grand-mère, elle arrête le ballon avec le pied. Tu vois, la balle ne va même pas en l'air. Tu vois, truc, il n'y a pas de danger. Mais entre les deux, bon, il y a eu une main légèrement décollée. Bon, mais il n'y a aucun risque. S'il n'y a pas la main sur le passage qui est but. Et je pense que c'est la réflexion de la VAR. Et je trouve ça assez juste. Alors d'autres pourraient dire, ouais, mais certaines fois, truc, ah ben oui, mais ça c'est l'éternel problème, quoi. C'est chaque fois une appréciation par rapport à quelque chose, quoi. Bon, truc. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que là, c'était moins médiatique et moins télévisé. Il y a eu récemment un match, je crois que c'était la Cup, parce qu'on se mélange là-dedans, donc très important, entre Manchester City et Chelsea. Et il y a une frappe de Palmer sur un coup franc, donc une action arrêtée, et dans le mur, il y a Jack Grealish. Et Grealish, là, le bras est vraiment plus décollé. Ça ricoche sur sa main. Tu vois, il saute, comme tous les mecs qui sautent un peu. Mais le coup franc est côté droit pour l'attaque de Chelsea, si vous voyez. Si vous voulez, pas de face, hein, un petit peu décalé sur la droite. Pas trop quand même, mais ce qu'il faut. Et surtout, la frappe est beaucoup plus forte. Et tu sens que le ballon va dans le coin gauche, sur la gauche du gardien de City. Ça veut dire que s'il n'y a pas main, il doit faire une parade. Pas la plus compliquée, mais il l'a réussi, il ne l'a réussi pas. C'est beaucoup plus ambigu. À des années-lumière de la main d'O'Brien, eh bien, l'arbitre ne siffle pas pénalty. Mais la différence fondamentale entre les deux matchs, c'est qu'à partir de la 16e minute, Brest se sent lésé. Alors que la rencontre City-Chelsea va continuer normalement. Et il ne va pas y avoir quelques joueurs de Chelsea toutes les 3 secondes, tu vois, qui vont perdre le fil, leur concentration, etc. Après le match, tu pourras en parler, tu pourras voir le dénoncer, tu pourras être d'accord, pas d'accord, faire tous les débats qu'on veut. Mais ça n'interfère pas sur le jeu, ça interfère de fait, puisque s'il y a pénalty et qu'il n'y a pas pénalty, machin, d'accord. Mais le reste, voilà, c'est un fait de jeu, une action de jeu, un truc et tout. On continue. Pour Lyon-Brest, c'est pas la même musique. Et il y a un joueur qui particulièrement... Alors, c'est rien de dire qu'il perd le fil, quoi. Les deux fils vont se toucher. À la base, c'est vrai qu'il est assez râleur, rouspéteur, après l'arbitre, il parle, un peu comme Luis Fernandez de la grande époque. Mais là, ça va être terrible. Je parle de Pierre Lesmelou. Et à partir de cette 16e minute, et Brest qui s'agace parce qu'il joue bien, mais il se trouve que, fatalité, ils vont encaisser un but peu de temps après ça. Tu vois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder, voilà. Et Lesmelou ne retrouvera jamais, jamais le contrôle. Et là, mettez-vous à la place de l'arbitre. Déjà, lui, le siffle pas. La VAR ne l'appelle pas. Et encore une fois, voilà quoi. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la main de Grealish. Ce sont des choses qui arrivent. On est à la 16e minute, voilà. Tu prends un but quelques minutes plus tard, voilà. Mais tu joues bien, il n'y a pas de raison électrique. Et donc, il n'arrête pas. Il n'arrête pas, et je reviens à ça. Mettez-vous à la place de l'arbitre. Essayez-vous d'arbitrer un match avec toutes les 3 secondes. Les joueurs, quand ils ont un coup franc en leur défaveur, ou qu'on n'a pas sifflé là, ou qui truc, qui vous hurle dessus, qui vous entoure, qui machin. Hier soir, pour TV5, je commentais Montpellier-Nantes, mais Der Zakarian, sur chaque action qui sont un peu de son côté, sur 20-30 mètres de profondeur par rapport à la ligne de touche dans son secteur, vous voyez, et 40 mètres de largeur, tu n'entends que lui sur l'arbitre. C'est pas possible. Enfin, il faut faire quelque chose. Et c'est quartier libre. Et même l'arbitre, qui était très bien, enfin, il garde son calme. C'était un match bien moins compliqué. Mais à un moment, tu te dis, va le voir. Et on le sait en plus, que les gars soient professionnels et qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes. Lesmelou, il a cette faille. Qu'il fasse un travail sur lui-même, que son propre entraîneur, il le fait peut-être, Eric Roy, peut-être qu'il lui dit, mais ça suffit pas, si tu lui dis, arrête de râler, arrête de ceci, arrête de cela. Si il continue à le faire, eh ben, il y a des spécialistes pour ça, va faire des respirations, va te coucher, je sais pas, moi, c'est pas. Mais lui, l'arbitre, c'est le réceptacle. Donc celui qui a arbitré Montpellier, il n'a pas arrêté de. Il a arbitré, quoi, dans sa carrière. Oh, mais là, il est fort, il n'y a pas de gens, là, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de. Pétard. Avec ces bancs, en plus, où maintenant, il y a 15 personnes, tu vois, 15 personnes d'un côté, 15 personnes de l'autre, etc. Et Lesmelou, il n'arrête pas une seconde, Bon, personne ne le signale, ça. Ça dérange personne. Comme je commentais sur TV5 Monde, j'ai pas vu le match Prime Vidéo. Mais je me suis renseigné après, et on m'a dit, à la mi-temps, ils n'ont parlé que de cette main d'O'Brien. Ils n'ont parlé que de ça. Et donc, du coup, les mecs de Brest qui râlent, tout ça, bah, c'était justifié. L'arbitre, pour eux, n'a pas de. On peut penser, effectivement, ou le dire, mais enfin, tu vas pas passer la première mi-temps, il y a eu d'autres choses. C'était une belle première mi-temps, il y a des tas de choses à dire, ça va, tu le dis 2 minutes, et puis tu parles un peu foot. Il paraît qu'ils n'ont pas arrêté. Mais rien sur Lesmelou, qui. Au passage, prend un jaune, l'arbitre a été patient, il le prend à la 45e minute. Mais il a été vraiment patient, croyez-moi. Et peu de temps après, Lesmelou fait une sorte de roulette à la Zidane. Simplement, à la sortie de la roulette, il saute et il retombe sur le pied ou la cheville d'un joueur lyonnais, lui faisant très très mal. Bon, l'arbitre siffle coup franc, il a raison de ne pas lui mettre un deuxième jaune. Mais des fois, tu sais, quand il y a des semelles comme ça et tout, mais je dis ça parce que peu de temps avant ou peu de temps après, enfin avant que l'arbitre ne siffle cette première mi-temps insupportable d'un point de vue état d'esprit, il y a Cacré qui arrive un peu en retard sur une intervention qui fait une faute. L'arbitre ne le voit pas, ça va en une fraction de seconde, bim bim. Et il se trouve que sur la faute en question, il met aussi une semelle et il touche le Brestois. Mais des choses comme ça, il y en a 400 000. Hier, Montpellier-Nantes, c'est pas la même semelle hein, que met Savagnier sur Palois, ça peut être rouge. Et alors, si sur cette semelle, parce que les Brestois disent, oh, en plus, semelle de Cacré, truc, ça mérite rouge, ou des choses comme ça, et truc. Et ben alors, quand Henrique se prend une semelle, mon ami, c'était d'un autre niveau, sur le côté gauche, il était arrière gauche à la place de Tagliafico, de la part d'un Rémois, où il doit se faire soigner, tu vois que le mec, il a dégusté, et ben le Rémois, il a pris jaune, quoi. C'est comme ça. Donc tu peux pas te réfugier derrière ça, tu passes à autre chose. Mais, bon, deuxième mi-temps, les choses se présentent mieux pour les Brestois, puisqu'ils vont déjà égaliser dans un premier temps, je ne sais pas, ça doit être à l'heure de jeu ou dans ces eaux-là, par Del Castillo, et 4 minutes plus tard, ou 5 minutes plus tard, l'arbitre accorde un coup franc qui n'a pas lieu d'être. Il se trompe, mais cette fois en faveur des Brestois. Est-ce qu'il y a compensation? Est-ce que machin? Je ne sais pas. Mais Matic, il est quasiment de dos sur une frappe brestoise. Et il a le bras archi-collé. Il peut pas non plus s'enfoncer le bras dans les côtes, quoi, si je veux dire. Il a le bras archi-collé, ça touche le coude. Bon, soit. Coup franc, boum. 3-1 pour Brest. Il se trouve que 2-3 minutes plus tard, voilà, on doit être aux alentours de la 70e minute, Lacazette réduit la marque à 3-2, ce qui a le don de survolter les Lyonnais, parce qu'à 3-1, tu te disais, c'est cuit, en plus Brest joue bien, etc. et tout. Et, une dizaine de minutes plus tard, cette fois, c'est Tagliafico, sur un tir rageur du pied gauche, tu vois, qui égalise 3 buts partout. Et Brest sent que le match est en train de lui échapper. Même à 3-2, ce but de Tagliafico, il tombe pas du ciel. Tu sens que ça peut arriver. Donc, Lesmelou, il est encore dans un état second, très très nerveux. Et à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, parce qu'il y a eu 15 minutes d'arrêt de jeu, hein, je sais pas, 85e minute, dans ces eaux-là, il y a un contact, mais normal, et puis même s'il n'est pas normal, peu importe, mais entre un joueur lyonnais et Lesmelou. Et Lesmelou, parce que je vous dis, Brest, il sent que, putain, merde, ils sont revenus à 3-3, et il manquerait plus qu'on perde ce match, donc ils pourrissent un peu le truc, mais lui en particulier. Et Lesmelou reste par terre, faisant mine de souffrir le martyr, tu vois, à la limite, faut l'opérer sur place, quoi. Il a 3 jambes cassées, s'il avait 3 jambes, tu vois, enfin, un truc, machin. Et ça, aussi, c'est insupportable. Et c'est constant. Les joueurs n'arrêtent pas à ce niveau-là. Il n'y a pas de progrès notable, sauf en Ligue des Champions, tu vois, ou en Coupe d'Europe, d'une manière générale. Et comme par hasard, les Français sont plutôt bons dans cette compétition. Alors bon, je croise les doigts pour, au moment où je vous parle, il y aura eu les matchs de Coupe d'Europe, là où auront officié Turpin et Le Texier. J'espère que pour eux, ça se passera bien. Mais Turpin, je le trouve meilleur vraiment en Coupe d'Europe. Le Texier, qui est un bon arbitre, en Coupe d'Europe, il se frise, même des matchs compliqués, parce que là, les enjeux et tout. Mais c'est d'un autre niveau technique déjà. Et puis les joueurs, ils savent qu'ils sont vus de la planète entière. Alors certains, évidemment, peuvent simuler. Certains peuvent essayer de provoquer un pénalty, de biaiser, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'a fait Lesmelou là, la Ligue des Champions, c'est rare. Ou alors il faut vraiment que tu sois un club archi-protégé, tu vois. Enfin, c'est pas très, très courant. Et Tagliafico, ça l'insupporte. Il n'a pas la bonne réaction non plus. Il ne doit pas le faire. Mais ça se voit aussi souvent, mais bon, à ses risques et périls, il relève de force Lesmelou, du genre « arrête un peu ton cinéma, ça va, le jeu reprend ». C'est pas dans l'intérêt de Lyon qu'on fasse venir des soigneurs brestois, etc., maintenant et tout, puisqu'ils sont dans une mouvance, ils sont revenus de 1-3 à 3-3, et va savoir s'il y avait un petit miracle, tout ça. Il n'a pas à le faire, il le fait. Et Lesmelou, je vous dis, qui était au bord de la fin de sa carrière footballistique, à partir du moment où Tagliafico le relève un peu, comme il faisait un cinéma monstrueux, ça l'énerve encore plus, et il veut en découdre avec Tagliafico. Heureusement, Matic s'interpose, truc et tout, il s'ensuit une mêlée, mais tout ça, derrière, l'arbitre va donner un deuxième carton jaune. Parce qu'ils en ont déjà eu, hein, chacun. Tagliafico, c'était, en deuxième période. Et c'est pas le scandale du siècle, quoi, je veux dire. C'est pas, franchement, la réaction de Lesmelou, elle mérite 100 fois un carton jaune. Et Tagliafico, si Lesmelou a un carton jaune, comme il est pas à l'origine, parce que la première chose, c'est le cinéma de Lesmelou. Lui, il est au milieu, Tagliafico. Mais bon, Lesmelou n'a pas cette réaction si Tagliafico n'essaie pas de le lever. Donc, il prend un deuxième carton jaune aussi, les deux sont rouges. Alors, c'est le drame. C'est le drame absolu pour Brest, enfin pour eux. Et d'autant plus que derrière, on sait comment ça va se terminer. Et ça va se terminer que Bizot va avoir une sortie extrêmement dangereuse sur un ballon en profondeur sur Lacazette, avec le genou très haut, Donc lui qui saute, et la casette essaie de s'arrêter, mais le ballon était à peu près jouable et tout. Et après, c'est la faute à pas de chance, je dis pas, mais Bizot, c'est lui qui commet la faute. Il y a pas de souci, c'est à lui. Tu peux pas, le genou en avant comme ça, c'est pas Schumacher, c'est un peu Neuer sur Higuain en finale de Coupe du Monde de 2014. Tu vois, évidemment qu'il y a pénalty. Pourtant, ça tarde, ça truc et tout. Bizot est le premier désolé. Il vient s'en excuser auprès de la casette. Bon, il le sait. Et une sortie comme ça, alors là, 90 fois sur 100, c'est rouge. Et derrière, tu as 2-3 matchs. Compte tenu des circonstances, l'arbitre enfonce pas le clou, quoi. Il a compris. Il met jaune. Ils s'en sortent très, très bien, les Brestois. C'est comme hier. Alors, je reviens encore. Bon, c'est marrant parce qu'il y a des références avec le match d'hier. Nordin sur Cosa. C'est pas de bol parce que il va essayer de. Il voit pas arriver Cosa à fond la caisse, quoi. Il essaie de. Voilà, il regarde que le ballon. Et comme le ballon est haut, il essaie de le contrôler en mettant son pied, sa jambe droite très très haute pour le coup, et ça arrive une semelle dans le visage de Cosa, et c'est carton rouge tout de suite, et il est sorti tout de suite, il n'a pas demandé son reste, je crois qu'il est allé après prendre des nouvelles du Nantais. C'est la faute, t'as pas de chance, c'est ce sport qui veut ça, mais là, Brest, avec seulement un jaune pour Bizot, s'en sort très bien. Mais derrière, et c'est ça qui est important, c'est que Brest, selon les journalistes sur place de Prime Video, là aussi je me suis renseigné, avec Éric Roy et évidemment mon truc, s'est fait voler, c'est le scandale du siècle, c'est patati, l'arbitre, il est nul, nini, nala. Mais eux, aucune remise en question. De dire, à 3-1, on s'y prend très mal et on doit garder le résultat. Je ne vais même pas demander à dire, et pourtant, il pourrait. Écoutez, vous nous parlez d'un éventuel pénalty à la 16e minute. Il s'en est passé des choses dans l'intervalle. On ne va pas revenir à cette action de la 16e minute. Si on mène à 3-1 à sensiblement 20 minutes de la fin et qu'on perd 4-3, n'allez pas me dire l'arbitre, ceci, cela. Les trois buts lyonnais, ils sont tout à fait normaux. Il n'y a rien à dire sur les trois buts lyonnais. Ah non, 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 non. Éric Roy, voilà, ça c'est toujours la victimisation. Ça n'existe pas que dans le football. Hein, je veux dire, c'est sociétal, hein, c'est machin. Ah ouais, mais bon, Brest dérange, vous comprenez, Brest, ben oui, si un petit club comme ça, avec un petit stade, avec des petits moyens, avec des petites ceci, cela, va en Ligue des Champions, Brest dérange. Faut arrêter. Ça dérange qui, franchement? Ni les aficionados, d'une manière générale, qui aiment bien. Bah, c'est l'histoire de ce sport, ça peut encore exister, qu'un club a priori largement inférieur aux autres, avec un budget somme toute rognonieux, se qualifie en Ligue des Champions en pratiquant un bon football, ce qui est le cas, chapeau bas à Brest. Tout le monde est content, je veux dire. Et la presse aussi. Après, s'il y a quelques rabat-joie au niveau de la Ligue, dire putain, au niveau des points pour le classement européen, Brest, c'est évident qu'ils sortiront jamais de leur poule, patati, patata. Voilà, ça va concerner peut-être quelques personnes. Mais globalement, non, Brest ne dérange pas. Tout le monde espère que Brest aille en Ligue des Champions. Donc, c'est toujours se positionner en victime, truc. Et surtout, de ne pas avoir, je trouve, la noblesse, ça tombe sur Éric Roy, mais c'est 80% des entraîneurs, hein, je vous rassure tout de suite, français. Quand ça leur sourit ou quand truc, oh, ah bon, il n'y avait pas pénalty pour nous, ah bon, ah je sais pas, j'ai pas vu les images, machin quoi. Par contre, si c'est un peu en leur défaveur, ça prend. Mais c'est normal, la presse te tend le truc, tu vas te gêner, surtout que c'est après coup, je comprends, l'adrénaline, machin, c'est pas trois jours après le match, c'est normal, il y a beaucoup de passion, beaucoup de trucs, beaucoup de machin. Mais quand même, c'est pas juste que derrière, ça soit ce pauvre monsieur Vernis, qui est au milieu de tout ce tralala, qui prend tout sur la tête, vraiment, c'est... Donc... Les erreurs d'arbitrage. Alors Lyon, c'est vrai, ces derniers temps, ça a été favorable plutôt contre Nice. Encore que quand tu revois les deux pénaltys qui auraient pu être sifflés pour Nice et tout, il y en a quand même un ou des trucs, mais bon, passons. Contre Nantes, c'est vrai, la Lacazette a ouvert les ailes à un moment en sautant à la tête, comme le font des tas de joueurs qui, 9 fois sur 10, n'ont qu'un carton jaune sur le coup. Là, ça a été impressionnant parce que c'est l'arcade, et l'arcade, c'est toujours impressionnant parce que quand l'arcade s'ouvre un peu, ça pisse le sang. C'est pas dangereux, mais c'est vrai que ça... Et l'arbitre n'a pas donné rouge. Maintenant, si je vous donne la liste où Lyon... Ça n'a pas franchement été à leur avantage l'arbitrage dans la première partie du championnat et un peu le début des matchs retour. Il y en a un paquet aussi. Hein. Voilà. Alors je ne dis pas que ça s'équilibre sur une saison. Parfois des équipes bénéficient un petit peu, parfois en sont un peu victimes, je ne dis pas. Mais quand, moi, ce qui m'avait frappé. Il y a plusieurs actions où Lyon, c'était comme ça, ça souriait pas, et c'était assez injuste. Mais il y en a une qui est terrible, c'est au Havre. Au Havre, alors je sais plus sur qui, si c'est Maitland-Niles ou Mata, enfin bon, un gars qui est sur la droite, peu importe, c'est un Lyonnais qui est dans la surface de réparation, qui récupère le ballon et qui part pour un débordement ou quelque chose comme ça, et le Havre, qui est archi en retard, pour compenser, il te fait un tacle du troisième type, quoi, si tu veux, les deux pieds décollés, il a pris beaucoup de vitesse, et il te met une semelle sur la malléole du Lyonnais, mais c'est un miracle déjà qu'il ne lui casse pas la cheville. Et il n'y a pas pénalty. Mais ça, en plus la barre, tu vois, elle est là, les trucs et tout, c'est rouge et pénalty, et ça change la donne quand même. Lyon qui était loin d'être tiré à faire à l'époque où ils perdent, c'est un peu la reprise de la deuxième partie de saison, à l'époque où ils perdent au Havre, eh ben Pierre Sage a rien dit. Et moi, je suis un peu ces conférences de presse que je trouve très intéressantes, ces interviews, et lui, par rapport à l'arbitrage, c'est exceptionnel. Et qu'après ce match... Ben, il ne l'évoque pas et il ne s'en sert pas un peu comme par avant ou cache-misère ou enfin c'était censé pour le coup. En plus, comble du comble, le Havre, peu de temps après, ouvre la marque derrière. Mais en plus, là non, tu as un pénalty pour toi et tu as un adversaire direct parce que c'était un match à 6 points. On se doute bien que le Havre joue évidemment pour éviter la relégation, tout comme Lyon à ce moment-là, tu te retrouves en supériorité numérique. Je veux dire, le match, il change d'âme, quoi. Et derrière, tu te retrouves à 1-0 après, machin. Bon, enfin. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, Pierre Sage. Est-ce qu'il va tenir comme ça tout le temps ? J'y serai attentif. Mais chapeau, quoi. Chapeau, le mec. Mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. Et... ça ne fait pas avancer le schmilblick. Au contraire, ça le fait reculer. Parce que pour les gens, pour tout le monde, c'est l'arbitre. Et pour eux, c'est impossible dans ces conditions de donner sa pleine mesure. Quoi. Tu es obligé des fois de passer un peu à côté ou de ne pas t'en sortir. Et moi, j'aime bien les choses qui font avancer le schmilblick. Et derrière ça, je ne jette pas la pierre à l'Esmelou. Je ne jette pas la pierre à Brest, je vous l'ai dit en début de podcast, ça tombe sur eux, ça peut tomber sur un autre. Mais là, ça me semblait un exemple assez frappant. Mais quelque chose comme ça, il faut qu'on avance. Ce n'est pas le tout de hurler, de dénoncer l'arbitre, patati patata. Et Lesmelo, qui est, j'en suis persuadé, un bon gars dans la vie. Si j'étais encore patron de Téléfoot, bon, ça remonte, hein, c'était il y a 30 ans, et ça a été mon choix de partir, etc., et tout, c'est pas le souci. Je pense que, fort de ça, pour faire avancer les choses, c'est une émission de télé qui fera passer certaines émotions, mais pas poussées, hein, des émotions normales, et qui pourra avoir un rôle éducatif, si vous voulez. Tu peux le faire en presse écrite, tu peux le faire à la radio, mais ça n'aura pas la même portée. Et je pense à Téléfoot, non pas parce que j'y ai longtemps travaillé, mais parce que ça touche quand même, sensiblement, je ne connais pas les audiences, mais pas loin d'un million de personnes, et beaucoup de gosses, donc des gosses qui après sont licenciés, vont jouer sur des stades, et aussi des jeunes arbitres, etc. Et tout. Quelque chose comme ça, Le dimanche d'après, enfin tu laisses passer le match, tu t'arranges avec Mélès Belou pour une semaine après, tu lui montres toutes les actions où il hurle après l'arbitre, et tu fais en sorte, là, ça sera une semaine après, lui, tu vois, il est dans des conditions un peu plus normales, et sans lui faire la morale, mais tu as une discussion avec lui, d'homme à homme, et tu lui dis, surtout qu'il... Il a reconnu, je me souviens dans une interview il n'y a pas longtemps que j'ai lu sur Presse Écrite, il dit « je reconnais que je suis chiant ». Ah oui, ça, mais c'est déjà bien de le reconnaître, mais l'idéal c'est que tu le sois moins, tu vois, dans le futur. Que tu gagnes, parce que c'est dans ton propre intérêt, il n'aurait pas eu de rouge, mais c'est aussi dans l'intérêt de ton équipe. Parce que c'est sûr que Tagliafico est plus facile, c'est pas une question de niveau de joueur, mais par rapport au rôle dans l'équipe, Tagliafico... Tu as Henrique qui est très bon arrière-gauche, c'est plus facile à remplacer quand il est exclu que Lesmelou, qui a quand même, il est dans l'entrejeu, Brest est en train de perdre pied, lui il peut mettre un peu de pied sur le ballon, il a la technique pour, etc., etc. Donc ça veut dire que Lesmelou, tu pénalises aussi ton équipe et tes équipes si depuis des années tu as ce comportement, parce que les arbitres ils sont bien gentils, mais là c'est normal de deuxième carton jaune. Donc, tu lui dis, mais regarde là, mais fais un travail, machin. Il ne pourra que le reconnaître. Ce n'est pas le mettre en difficulté, c'est avoir une discussion sensée, intelligente. Et la semaine d'après, tu fais rencontrer M. Vernis et Lesmelou. Parce que tout ça, ça reste de l'humain. Et je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de nervosité sur la pelouse, et je peux comprendre le sentiment d'injustice, je peux tout comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est chaque fois la même personne qui est visée, et je vous mets mon billet que c'est la première fois que vous entendez quelque chose par rapport à ce match sur l'état d'esprit de Lesmelou. Si c'est la deuxième fois, c'est que la première fois, vous l'avez entendu avant-hier dans l'équipe du soir, parce qu'il y avait un de mes confrères qui dit « Ouais, Brest, en ce moment, ça va pas fort. » Et puis bon, ils n'avaient pas enlevé le carton rouge à Lesmelou contre Monaco. Et là, j'ai été obligé d'en parler. Alors, pas pendant 30 minutes comme maintenant, avec moult détails. Mais j'ai dit « Arrête, Lesmelou, il a été insupportable. » Enfin, je l'ai dit en plateau, mais en deux minutes. Mais personne, presse écrite, radio... Mais, enfin, ça m'échappe peut-être, hein. Je lis pas tout, j'écoute pas toutes les radios de France, je vois pas toutes les émissions de foot de France, je suis pas partout sur les réseaux sociaux dès que ça parle foot. À ma connaissance, dites-le-moi, est-ce que vous avez entendu parler, au-delà de l'arbitrage qui aurait été terrifiant de M. Vernis, est-ce que vous avez entendu parler de Lesmelou ? À mon avis, non. Parce que c'est toujours facile, c'est la méthode. Et le joueur, il est peinard. Donc, comme il est peinard, ben Lesmelou, ben jusqu'à la fin de la saison, si l'occasion se présente, ou la saison prochaine, et machin, ben il continuera. Il n'y a pas de problème. Et en plus, il n'évoluera pas. Et pour les arbitres, ça sera tolérable. Der Zakarian, si à un moment, pareil, tu sais ce que tu fais. Tu mets tous les sons bout à bout, alors avec les images, tout ça et tout, chaque fois qu'il parle. Et tu lui dis, mais pourquoi tu n'as pas fait arbitre, toi ? Il faut qu'il y ait un peu d'humour, tu vois, détendu, c'est pas un procès, quoi. Tu dis, Michel, pourquoi tu n'as pas fait arbitre ? Tu aurais été impeccable, l'arbitre. Mais tu trouves ça normal ? Tu vois qu'ils nous disent « Ouais, mais on est privé. Ah ouais, blablabla. » Et puis après, tu le fais rencontrer aussi l'arbitre, tu truc. Et puis après, ben, tu ouvres les yeux. Qu'ils se rendent compte, quoi. Tu vois, moi, je me souviens, ils ne s'en rendent même pas compte. À l'époque de l'association Foot Citoyen, on travaillait avec des entraîneurs, et les entraîneurs au bord de la pelouse, qui comme les parents, qui comme truc et tout, des fois certains passent leur temps à hurler, donc on travaillait trois semaines avec un entraîneur, soit sur trois matchs, etc. Et on le filmait, il savait qu'il était filmé, hein, etc. On lui mettait un micro, donc sachant qu'il est filmé avec le micro, tu pouvais supposer que... Il allait un peu moins parler que d'habitude. Il était d'accord, hein, au contraire, il voulait évoluer, etc. Et tout. Et puis parle. Et après, j'ai fait un petit montage, et j'ai dit... Et alors, question... Le gars, il n'en revenait pas. Il ne se reconnaissait pas, il machin. Donc on lui a expliqué, tu ne peux pas, chaque fois, dès que le ballon arrive dans un pied de tes joueurs, je ne sais plus, il devait avoir 13, 14 ans, fais ci, fais ça, machin, pourquoi tu ne l'as pas donné, putain. Là, c'était un peu sur les arbitres aussi, mais c'était plus par rapport à ses propres joueurs. Et on a travaillé, il a évolué, il a truc. Il leur mettait 400 000 tactiques avant le match, vous ceci, cela. On lui dit, putain, ils sont là pour passer du bon temps, évidemment. Tu leur indiquais quelque chose, certaines choses, la tactique, tout ça et tout. Et après, il les laissait parler même eux-mêmes, tout ça. Il recadrait, il truc, enfin, on trouvait un juste milieu. Et il était ravi. Mais on devrait faire ça, je suis désolé, au niveau professionnel. Sinon, on s'en sortira pas, quoi. Et ça suffira pas. Et il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des interprétations. Mais tu dois être fort dans la tête et passer à autre chose, comme l'ont fait les joueurs de Chelsea après le coup franc de Palmer et la main de Grealish, et comme l'ont pas fait les Brestois d'une manière générale, parce qu'ils avaient le sentiment. Alors, en deuxième mi-temps, c'est encore pire, puisqu'à la mi-temps, là où ils avaient un gros doute sur la main d'O'Brien, tout le monde leur dit c'est un scandale, machin et truc. Alors, voilà. Je pense que vous ne réalisez pas l'importance de ce que je vous explique ici. Et c'est pour ça que je vais vous mettre une sirène. Et pour mieux digérer tout ça, pensez à une chose. J'ai dit téléfoot tout à l'heure, mais ce n'est pas une bonne idée parce que, ok, c'est bien que ce soit vu par les jeunes, il faudrait peut-être le Canal Football Club, mais le Canal Football Club, quand il faisait beaucoup d'audience, c'est-à-dire que Canal+ avait les droits de la Ligue 1 et c'était juste avant la rencontre phare de 21h. Là, il y avait une audience, et ça touchait aussi les jeunes, puisque c'était assez tôt, en fin d'après-midi, et aussi les adultes, et aussi les joueurs de foot, c'est vachement important, les joueurs de foot professionnels également, c'est ça, et les entraîneurs. Tu fais ces trois reportages sur trois semaines, d'accord ? Enfin, deux reportages. La première, Lesmelou, une rencontre avec lui. Vous avez bien pigé le truc. Et tu lui montres chaque fois qu'il s'énerve après l'arbitre, et tu lui dis, là, l'arbitre prend une bonne décision, pourquoi crier ? Là, c'est difficile, ça va vite, etc., etc. Ouais, mais tu fais ça. La semaine d'après, et là c'est encore plus intéressant, tu les fais se confronter, mais dans un climat tout à fait amical. Je le répète, une fois que la tension est tombée, puisque là, c'est X jours après, Lesmelou, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un, à n'en point douter, d'intelligent. Si l'arbitre lui explique tranquillement, « Pierre, comment veux-tu que je puisse avoir l'essentiel de mes esprits si à chaque intervention, ou très souvent, bien trop souvent, tu viens vers moi agressivement, etc. et tout. C'est pas facile parce que ceci, cela. Lesmelou après, explique oui, mais tu comprends, je suis tendu. Voilà, tu fais cette rencontre. Lesmelou, il n'y a pas de souci. Il va évoluer. Tous les gens professionnels qui regardent cette émission, bon nombre d'entre eux, ont cette fragilité. Et également, à des titres divers, celle de Lesmelou. Et ne réalisent pas que chaque fois, leurs interventions vis-à-vis de l'arbitre sont terriblement agressives, malvenues, etc. Ces gens qui regardent ce sujet, ils vont évoluer. Ils vont se projeter. Ils vont se dire, mais merde, c'est vrai que moi aussi, je réagis pour un oui, pour un non. C'est vrai que quelque part, l'arbitre, il faut que je me mette un peu à sa place aussi, quoi. C'est des interprétations, ça va vite et tout. Voilà, tu rends les choses un peu plus humaines et tu fais évoluer les gens. Tu les fais réfléchir, ce qui est capital. Qu'est-ce qui va se passer après ? Je ne dis pas que plus personne ne va râler la journée suivante. Mais il est évident, et je dis même, que la Ligue professionnelle de football devrait ces deux reportages-là les cumuler, quoi, faire un montage, et envoyer le DVD à tous les joueurs professionnels. Et même aller plus loin, via le syndicat des joueurs, où ils défendent très bien les joueurs, il n'y a pas de problème. Mais eux aussi, ceux qui sont à la tête, je les connais. Quand tu vois les joueurs toutes les 3 secondes énervés comme ça, ça les sensibilise et ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc eux, ils font des copies, ils envoient à tous les joueurs professionnels. Et ils les sensibilisent chaque fois, parce qu'il y a toujours des responsables de l'UNFP qui vont voir tous les joueurs pour parler de choses diverses par rapport à leur syndicat, etc. Il est évident qu'on ne va pas régler le problème, mais on va gagner beaucoup, et au fur et à mesure. Et les jeunes qui voient ça, pareil, qui voient l'émission et trucs, ils ne sont pas idiots. Et l'entraîneur, pareil, parce que là-dedans, on va dire, l'entraîneur, si tu vois qu'il y a certains de tes joueurs qui sont incapables de faire preuve de sang-froid, même face à une injustice, eh ben, il faut les sensibiliser par rapport à ça. Je le répète, il y a des moyens pour progresser aussi dans ce domaine, des moyens scientifiques, tu vas avoir des gens spécialisés, etc. C'est pour ça que je vous mets cette sirène, et c'est pour ça que je pense que ce ne sont pas des paroles en l'air. Et après, il faut que ce soit relayé, évidemment, par la presse, d'une manière générale. Et ainsi, l'aficionado réalisera certaines choses, et il ne verra pas les matchs de la même manière. Et sans doute, dans ce cas de figure en tout cas, il pourra faire preuve de beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de l'arbitre, et d'un peu moins pour un qui passe chaque fois entre les mailles du filet ou entre les gouttes, c'est-à-dire le joueur. Sortez-moi, si vous avez un compte Twitter, j'en ai un, donnez-moi un exemple avec l'extrait de Les Melou qui, soit de manière écrite, soit de manière parlée, a été un peu remis en cause par rapport à ce match, eh ben, je serais curieux de le lire ou de l'entendre. Pas une seule fois, à mon avis. Et des organes de presse en France qui parlent football, il y en a 450 000. Voilà. Vous faites partie de l'élite, les bravettes et les braves. Vous êtes les bérets verts du football. Donc c'est pas vous que je veux convaincre, mais bon nombre d'autres qui ne sentent pas ces choses-là, qui ne réalisent pas ces choses-là. Et le téléspectateur aurait une vision un petit peu plus aérienne, on va dire, de la situation et comment faire pour y remédier. Voilà. C'était mon petit... Enfin, c'est pas un coup de gueule, quoi. Juste, je l'ai dit, pour faire avancer le chimili-mili-mili-mili, le schmilblick. Et vous savez quoi ? C'est terrible, parce que je vois que le temps a passé. Et tout ça, je voulais vous parler de ça dans le Money Time et d'autres choses. Mais si maintenant je vous fais la nouvelle star, on en a pour 2 heures, les enfants. Et donc, il n'y aura pas de nouvelle star. C'est dommage, mais ça, c'est un peu intemporel. Peut-être pas travailler pour rien, je vous le mettrai dans une période un petit peu creuse, Nouvelle Star. Mais vous verrez, parce que c'est... Je crois que c'est assez intéressant. Général ?
Ah, déjà, il n'y a pas... Mais c'était le titre, Nouvelle Star ?
Ah ben non, il n'y a pas de Nouvelle Star. On est resté un peu dans... Enfin, ouais, le titre aurait dû être différent, mais enfin, je sais pas, c'était pas le Money Time non plus, c'était... Je sais pas. On trouvera un autre titre. Enfin non, maintenant c'est le titre, j'ai dit que c'était le titre. Ça restera Nouvelle Star, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais je serai emmerdé quand je ferai le truc de Nouvelle Star, c'est vrai.
Ah ben oui, ça sera Nouvelle Star 2, hein, il y a eu plusieurs saisons de Nouvelle Star.
Oui, Général, bon allez, il faut conclure. Je suis fatigué, et puis en plus, et cher... Bravette et brave, je suis en train de préparer le super quiz des provinces. Vous verrez ça sur l'équipe.fr, à partir du 20 mai peut-être, tout ça et tout. Vous allez, ça va être un jeu, je pense, assez sympa. On en reparlera. Général, c'est à vous.
Longue vie aux braves.
Tire le centre, clair, gol.